Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Et toute l'équipe est là. Bonjour, bienvenue. On va bien manger aujourd'hui avec Salma. Bonjour Salma.
Bonjour Manu.
Alors voilà.
Bonjour Manu.
C'est comme on dit Salma, on coupera au montage.
D'accord.
Manu, c'est le monsieur qui est là-bas. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, bonjour Salma.
Voilà, Manuel Mariani, qui est journaliste et critique gastronomique. Karim de la boucherie Les Jumeaux est avec nous. Bonjour Karim.
Bonjour tout le monde.
Je peux vous appeler par votre surnom ou pas?
Non,
mais ça me ferait plaisir. Parce que moi j'ai l'habitude de vous appeler et puis voilà, je m'y retrouve pas. Pour tous ceux qui nous écoutent, concours, donc vous allez gagner votre panier des jumeaux pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier, Karim?
Donc dans le panier, on va avoir du foie gras non gavé, éthique, bio et halal, bien sûr, avec un magret séché, un jus pétillant et un saucisson sec.
Bien, un jus pétillant. C'est quoi, c'est du champagne?
Non, pas du tout. Nous, on fait pas de champagne. En fait, ça va être un jus de pomme avec du CO2, quoi, des petites bulles.
Ah, du champomis, quoi.
Du champomis sans alcool. Nous, on ne vend pas d'alcool.
Ah, mais le champomis, c'est sans alcool.
Tout à fait.
Je peux participer?
Tout le monde a le droit de participer.
Bon, y a pas de souci. C'est l'occasion pour vous donc de goûter ce foie gras éthique qui, alors c'est une exclusivité. Il y en a quasiment plus déjà pour ceux qui veulent.
On a quasiment tout vendu. C'est 3 ans de travail. Mon frère et moi, on a travaillé pendant 3 ans pour faire du foie gras non gavé, puisqu'on est contre le gavage des animaux. Donc, du coup, on s'est dit, si on vend du foie gras, ce sera uniquement quelque chose de non gavé. Donc, on a joué le jeu avec notre éleveur, et il nous a fait confiance. On a l'exclusivité mondiale sur ce produit-là, et c'est le seul foie gras au monde qui n'est pas gavé.
Donc, vous voulez participer, c'est très simple. Vous allez sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Vous cliquez sur le jeu concours des jumeaux. Vous vous inscrivez et on tirera votre nom peut-être au sort dans la matinale la semaine prochaine. Réveillon ou pas réveillon, on parle de l'anti-réveillon. Aujourd'hui, Manu, d'où elle vient la coutume de manger au cours du réveillon de Noël aux quatre coins du monde? Qu'est-ce qu'on mange finalement?
C'est une très bonne question. Bah, vous vouliez me demander d'où vient la dinde de Noël, c'est ça?
Oui, la dinde de Noël.
La tradition de la
dinde. Là, on a le dindon. On a le dindon de Noël,
voilà,
Manu.
C'est ça. Oui. C'est ça, absolument. Écoutez, la question est assez bonne. Mais avant de vous répondre, je voudrais replanter le décor. Parce qu'il faut déjà savoir qu'à l'origine, Noël, ça n'est pas une fête chrétienne, mais une fête païenne qui nous vient de l'Empire romain. Le 25 décembre, les Romains célébraient Sol Invictus, qui est la grande fête du soleil invaincu. C'est d'ailleurs la date du solstice d'hiver, hein, le 25 décembre. Ainsi que Mitra, qui est une divinité indo-persane, dont le culte était souvent pratiqué par des soldats romains qui avaient combattu en terre perse ou byzantine.
Alors la dinde, Manu.
Mon cher Philippe, là aussi, je suis contraint de faire une petite mise au point, parce que lorsque nos ancêtres ont commencé à réveillonner le soir du 24 décembre, il était strictement impossible qu'il y ait eu de la dinde au menu, du moins sur notre continent, parce que les équipages de Christophe Colomb ne l'avaient pas encore ramené d'Amérique du Sud, qui croyait d'ailleurs être les Indes, d'où son premier nom de poule d'Inde, qui est devenu
avec, dinde, avec une apostrophe.
Avec une apostrophe, qui est devenue d'Inde tout court quelques temps plus tard. Cependant, on avait tout de même l'habitude de manger de la volaille, en général du poulet ou de l'oie, ou même du chapon chez les Romains souvent. Les volailles étaient alors considérées comme des oiseaux solaires qui garantissaient la protection du soleil et celui qui en mangeait.
Des oiseaux solaires, Manu. Est-ce qu'il faut donc y voir un rapport avec Sol Invictus, la grande fête du soleil invaincu dont vous venez de nous parler?
Vous avez tout compris. C'est seulement vers le XVIe siècle, après qu'on ait créé des élevages de poules d'Inde, avec une apostrophe toujours en quantité suffisante, que la dinde a pris la place du poulet ou de l'oie, car on considérait à cette époque cette volaille comme étant follement exotique. C'est une autre preuve que les traditions de Noël sont un amalgame de coutumes païennes venues de divers pays à diverses époques, l'Église catholique ayant récupéré cette fête pour son propre compte beaucoup plus tard.
Oui, alors c'est très intéressant ce que vous racontez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui boycottent Noël sous prétexte que c'est une fête avant tout catholique. C'est une fausse route, Manu.
C'est tout à fait le cas, Philippe, parce que même si Noël est aujourd'hui forcément associé au catholicisme et à la naissance de Jésus, à l'origine c'est bien une fête païenne. C'est qu'après la chute de l'Empire romain que l'Église a récupéré cette fête à son compte. À cette époque, les chrétiens purs et durs refusaient d'ailleurs carrément de célébrer Noël, car non seulement c'était une fête païenne, mais en plus ils contestaient le fait qu'on y associe la naissance de Jésus, car d'après la Bible, quand Jésus est né, je cite, « des bergers demeuraient et veillaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux ». Cela signifie donc que Jésus serait forcément né avant les premières grosses pluies d'automne, quand on rentre les moutons à l'étable. C'est-à-dire autour du mois d'octobre, et en tout cas certainement pas après le début du mois de novembre.
En tout cas, ça donne réflexion à tous ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux à chaque fois que revient Noël.
Ah bah exactement, d'autant que Noël est célébré absolument partout dans le monde. Par exemple en Estonie, on consommera du porc accompagné de choux fermentés, du pain d'épices et de la bière, dont on laissera les restes jusqu'au lendemain matin sur la table, en prenant également soin de laisser le feu allumé dans la cheminée pour chasser les mauvais esprits pour toute l'année à venir. Chez les Italiens, très rarement de la viande, on fera plutôt un...
C'est maigre.
Ouais, c'est maigre. Maigre, pas forcément, mais c'est, en tous les cas, c'est sans viande, parce qu'on fait quand même des festins à base de fruits de mer, de poissons, de légumes, sachant que chaque région a ses propres recettes de Noël. À Rome, la capitale, on mange une soupe de poisson dans laquelle on ajoute des petites pâtes comme des risoni, par exemple, et des brocolis. En Calabre, on déguste traditionnellement des pasta alici e mollica, qui sont des spaghettis aux anchois qu'on parsème de miettes de pain bien croustillantes, grillées à l'huile d'olive. Autre exemple à Naples, mais aussi à Venise, où on mange traditionnellement des frittelle di bacala, qui sont des beignets de morue qu'on mange avec un petit filet de jus de citron.
Ah, si on vous écoute, Manu, on a l'impression que le soir de Noël, un peu partout dans le monde, on mange principalement des plats simples et plutôt traditionnels.
Dans l'ensemble, c'est assez vrai, mais dans certains pays comme le Japon, j'ai découvert des traditions de Noël très récentes qui vont vous paraître absolument incroyables. Figurez-vous, dans les années 70, en 74 exactement, la chaîne américaine KFC a lancé un menu spécial Noël le soir du réveillon. Et ça a été un tel succès que c'est toujours le cas aujourd'hui, avec un menu autour de 30 euros avec champagne et pâtisserie inclus, et qui continue à faire le plein chaque année. Les habitants des grandes villes nippones peuvent même faire jusqu'à 2 heures de queue sous la neige pour avoir une table, à tel point qu'un grand nombre de Japonais qui ne souhaitent pas attendre aussi longtemps dans le froid réveillonnent désormais à la maison, et devinez ce qu'ils ont mis au menu ?
Du poulet frit.
Ben absolument. Voilà. Un bel
c'est
exemple
dingue,
de réussite
quand même,
marketing.
Hein. Ben, oui, c'est dingue tout ça.
Oui, non mais c'est devenu l'endroit où aller. Hein. C'est vraiment chic et c'est très difficile de trouver une table au Japon ou KFC parce que tout le monde prend ça de.
Le KFC, on est bien d'accord.
On parle bien du KFC, Monsieur Kentucky.
Mais c'est parce que aussi c'était un soir où il y avait personne dans les KFC. En fait, c'est une super idée de marketing de génie. Ouais, c'est comme le Black Friday en fait.
Une autre bonne idée de marketing, mais plus près de chez nous, il y a des coutumes qui sont récentes et tout aussi incroyables comme en Suisse. Alors ça m'a absolument fait écarquiller les yeux d'apprendre ça. Parce qu'en Suisse, où on réveillonnait comme en France avec une âne farcie, qu'on mange souvent avec du chou, et qu'on faisait suivre d'une bûche de Noël, depuis 3 décennies, il y a une mode surprenante qui s'est développée en Suisse, c'est la fondue chinoise.
En chinois, dans le texte. Alors, t'imagines, t'es en Suisse, on pourrait s'attendre à manger une fondue savoyarde, mais non, c'est plutôt de la fondue chinoise.
Oui, tout à fait. Et je vous fais pas marcher. L'explication est même toute simple. Chez les jeunes Suisses qui voulaient rompre avec leur repas de Noël traditionnel, on avait pour habitude de manger une fondue au fromage ou une simple fondue bourguignonne pour leur côté convivial. Mais il y a un fabricant de produits asiatiques qui voyait ses ventes de fondue chinoise s'effondrer chaque année au moment des fêtes. Alors, il a décidé de contre-attaquer en lançant une grande campagne de pub sur sa fondue chinoise, plus digeste, moins calorique, car les aliments sont cuits dans un bouillon et pouvant plaire à toute la famille, les ingrédients étant au choix de chaque convive, poulet, bœuf, crevettes, poissons, légumes, tofu, ce que vous voulez, contre une option 100% fromage ou 100% bœuf, en plus avec de l'huile pour la fondue savoyarde, bourguignonne, pardon. Donc, ce sont des arguments qui ont touché les Suisses, toutes générations confondues, et qui sont désormais plus de 80% à manger de la fondue chinoise durant les fêtes de Noël. C'est d'autant plus incroyable qu'un Chinois ne mettra jamais une fondue au menu des fêtes de fin d'année. Le choix des plats de fête en Chine devant répondre à une symbolique très très précise.
Bien.
J'allais dire justement, puisque maintenant, au début, tu nous as dit que c'est une fête païenne, c'est l'occasion jamais de casser un petit peu avec ce menu typique où les gens sont censés manger un petit peu la même chose. Donc voilà,
c'est très codifié, hein. C'est huit foie gras, saumon et dinde.
Voilà. En fait, moi, ce que je retiens, c'est que c'est une occasion comme une autre pour se réunir ou en famille ou entre amis, ou faire des retrouvailles avec une famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc après, si c'est plus simple et plus sympa de faire une fondue chinoise en Suisse, qu'on fasse ça. ou carrément si on veut manger vraiment de la dinde, c'est pas la peine de vraiment de commencer à préparer à manger depuis 11h pour passer à table à 21h30 ou voilà.
La magie de Noël, c'est déjà le fait d'être ensemble.
Exactement.
Est-ce que alors parce que de moins en moins de gens mangent de la dinde à Noël puisqu'il y a des alternatives et c'est ce qu'on verra ce matin. Karim, la dinde c'est encore la volaille qui domine chez vous?
Non, cette année nous on a une nouveauté, on a le chapon de Bresse qui est la meilleure volaille du monde en fait. Donc on en a vendu énormément. Donc ça coûte un peu bonbon.
Alors,
pour
je sais pas si vous avez remarqué Philippe, mais en ce moment les produits des jumeaux, ça commence toujours par meilleur et ça finit toujours par bon monde.
Ah mais c'est sûr.
Et après ça finit toujours par l'addition. Donc et là il a bien fait de le dire, tu vois. Ce qui fait mal, c'est ça.
Donc c'est donc
si le fisc nous écoute, le panier moyen chez les jumeaux en ce moment est très élevé hein.
On a l'info entre le foie gras non gavé et le meilleur foie gras du monde, le chapon de Bresse, la viande de Galice et le bœuf japonais, c'est sûr que ça fait mal au portefeuille.
Et on trouve ça où? Chez les meilleurs bouchers du monde, c'est ça?
Je vais pas être prétentieux quand même. Je vais pas être prétentieux.
Mais ça vient d'où la mode du chapon? Quand on était jeunes, nous Manu, on mangeait pas du chapon, on mangeait de la dinde, Peut-être du gigot.
Oui, en fait le chapon c'est une tradition assez ancienne. Les Romains castraient les Romains castraient les coqs, les Égyptiens castraient les coqs parce qu'ils s'apercevaient que les volailles castrées mangeaient beaucoup plus et s'engraissaient plus et donc ça permet effectivement d'avoir des volailles plus
tendres et plus grosses,
plus tendres, plus moelleuses et puis effectivement avec plus de
ils le faisaient c'était par intérêt financier parce que en gros on gagnait plus d'argent à castrer un coq. Et ils s'engraissaient très facilement.
Oui, mais il y avait un intérêt gustatif aussi quand même, parce qu'un chapon, au départ,
c'était vraiment économique. C'est comme l'agneau pressalé du Mont-Saint-Michel. L'agneau pressalé du Mont-Saint-Michel, c'était pour les pauvres. Pourquoi? Parce que les agneaux, ils n'avaient pas besoin de travailler l'agriculture pour nourrir les agneaux. On les laissait dans les présalés, ils mangeaient eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est devenu l'agneau le plus cher en France, quoi. Et le chapon, c'est pareil, c'est devenu un produit très cher.
Mais le chapon, c'est meilleur que la dinde d'un point de vue goût?
Pour moi, oui. Pour moi, elle devrait être beaucoup plus tendre et meilleure en goût. Après,
La dinde est tendre, c'est autre chose déjà. C'est deux mots qui vont pas ensemble.
Ça dépend de la cuisson. Ça dépend de la cuisson.
C'est acheté chez les jumeaux ou pas aussi, hein. Non, il a envie de dire.
Non, pas du tout, mais je pense que si on respecte le temps de cuisson, on peut,
meilleure dinde du monde.
Oui. Non, et encore. Et des environs, Manu.
On fait de la dinde de Bresse, hein. Donc on a deux catégories de dinde. On a la dinde fermière, la belle rouge, et on a la dinde de Bresse.
Bien.
Et voilà, donc ça, c'est un produit exceptionnel quand même, la dinde de Bresse, ouais.
Salma, vous nous interpréterez votre vision de la dinde dans un instant. Et Manu, vous ferez de la bûche, pas comme les autres.
Ah non.
Les exploits du chef, revient dans un instant. Revient dans un instant. Revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
L'anti-réveillon aujourd'hui jusqu'à 13h. Je rappelle que vous jouez pour remporter votre panier pour les fêtes de chez les jumeaux. Karim, qu'est-ce qu'il y a dans le panier?
Dans le meilleur panier,
on a le meilleur foie gras du monde, éthique, pas gavé et halal. Donc c'est un pot de 125 grammes, donc c'est du foie gras entier. On a ensuite un magret séché, d'oie. On va avoir un saucisson sec et un jus pétillant.
Mais c'est un saucisson sec de quoi?
Donc c'est un saucisson sec qui est fait par nous, bien sûr. Ah. Donc c'est un saucisson sec de bœuf bio.
Et voilà. Bon, vous voulez jouer et remporter ce panier de Noël et partager avec vos amis ce foie gras qui est unique. Eh bien, vous inscrivez sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Vous avez la page du concours, vous inscrivez vos coordonnées et le tirage a lieu la semaine prochaine dans la matinale. Salma, on parlait de la dinde. Comment est-ce que vous l'interprétez, vous, la dinde?
Justement, si tu as suivi depuis le début, cher Philippe, tu aurais deviné mon point de vue. C'est-à-dire, je suis vu maintenant que tout le monde court, tout le monde travaille, et que Noël n'est pas forcément une fête religieuse. Donc, on peut très bien casser les codes et préparer un plat à notre convenance, à notre rythme. Mais puisqu'on parle de dinde, je vais rester quand même dans la dinde, mais un peu avec des goûts et des saveurs exotiques. Si vous aimez bien les petits mélanges sucrés salés, moi j'ai une petite recette de dinde au curry avec ananas caramélisé. comme recette pour aujourd'hui, histoire de faire un truc... moi, j'aime bien les mélanges sucré-salé, à vrai dire. Mmh. Et on n'est pas obligé vraiment de se forcer à cuire vraiment la dinde entière, où il y a vraiment quelques astuces à respecter pour réussir la cuisson, parce que mine de rien, c'est pas facile. Il y a quelque chose...
Il y a quelques précautions. Il y a le risque que ce soit trop sec. C'est la grande question.
Voilà. C'est pour ça que pour réussir une bonne cuisson de dinde, il faut vraiment vérifier le rapport poids de la dinde avec le temps de cuisson. Il faut vraiment avoir un plat avec une grille qui va au four. Il faut vraiment avoir le fameux thermomètre pour thermomètre à viande pour avoir la bonne température au blanc de la dinde. N'est-ce pas, Manu? Tout à l'heure, tu m'as donné une autre astuce.
Oui, bah,
hein, si on n'a pas fait, le thermomètre à viande.
Tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le thermomètre à viande. Ouais.
Vous pouvez piquer aussi entre le gras de la cuisse et le blanc de la dinde avec ce qu'on appelle un diapason en cuisine, c'est-à-dire, vous savez, les grandes fourchettes avec les dents très longues,
oui.
Ou avec un pic à brochette ou quelque chose comme ça, et vous pressez un petit peu sur votre dinde. Si le jus qui remonte est transparent, c'est-à-dire s'il n'est pas sanguinolent, s'il n'est pas un peu rouge ou rosé, ça veut dire que votre dinde est cuite.
Juste une dernière astuce, c'est qu'il faut prévoir toujours un temps de pause après la sortie de la dinde du four, entre 20 et 25 minutes.
Le temps de pause, c'est pour le papier peint, parce qu'on fait plutôt un temps de repos, là, hein, c'est ça
Exactement, oui. Donc,
Salma, ne vous laissez pas faire par Manu, franchement.
Non, non,
préparer la dinde, il faut aussi la laisser à température ambiante 20 à 30 minutes.
À couvert, bien sûr.
Et une petite astuce aussi pour vérifier si la dinde est cuite, on laisse... la pâte en fait de la dinde légèrement longue et une fois qu'elle est cuite on peut la casser rapidement, donc c'est une petite astuce.
Moi ce que j'aimerais savoir, c'est que on est en train de parler de cuite, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une dinde qui ne sèche pas, parce que c'est vraiment le problème de la dinde, c'est que c'est pas moelleux. Vous battez pas les enfants.
Non mais ça dépend aussi de la façon dont on le cuit, c'est-à-dire que comme je disais, à partir du moment où la dinde a la bonne cuisson, c'est-à-dire quand effectivement elle est plus sanguinolente, même si elle est un petit peu sanguinolente, c'est pas grave, vous pouvez la sortir, vous la couvrez, il vaut mieux la sous-cuire et puis la remettre éventuellement 10 minutes au four que de la cuire trop. La dinde, à partir du moment où elle est cuite, elle peut devenir très rapidement surcuite. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à l'enlever un petit peu plus tôt, et de toute façon le fait de la laisser reposer à couvert, elle va finir de cuire quoi qu'il arrive.
Moi,
là, elle sera moelleuse.
Moi, j'ai trouvé une astuce, c'est de plonger quelques tranches de citron dans le fond de la dinde. Comme ça, on récupère un blanc assez moelleux. Mm-hmm. Et j'ai pas encore essayé, donc.
Oui, enfin, moi, je l'ai déjà fait, pas avec de la dinde, mais je l'ai déjà fait, effectivement. Moi, en fait, je presse les citrons, ouais, avec des poulets, je l'ai déjà fait avec des chapons aussi. Je presse les citrons à l'intérieur de la dinde.
Et les petits suisses au fond de
la volaille. Je frotte la peau avec le citron, parce que l'acidité va faire que la peau va bien croustiller. Et ensuite, je mets le... Alors, on fait ça avec des citrons bio, évidemment, parce que sinon...
Des meilleurs au monde aussi.
Voilà, c'est ça. Sinon on fourre la volaille avec des pesticides, etc.
Mais donc, tu es contre l'idée de glisser les petits suisses au fond de la dinde. Il faut arrêter avec cette idée-là.
Non, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas.
Le résultat n'est pas bon.
J'ai déjà fait, mais il y avait un débat entre
C'était sûr, pas dedans. C'est sûr. Voilà.
Sur la dinde, ça je valide pas. Mais dans à l'intérieur de la dinde ou à l'intérieur de la volaille, le petit suisse, ça se pratique beaucoup. C'est un truc de grand-mère, hein, quelque part.
D'accord.
Alors, on y va pour votre idée de dinde, Salma.
Alors, pour faire efficace, moi, de la dinde, je la coupe en 8, donc c'est pour 8 personnes. Il faut prévoir une belle dinde fermière, toujours fermière, n'est-ce pas, de chez les jumeaux. La meilleure au monde, non, je te taquine, de 3,5 kg, donc a priori c'est un bon poids. Un ananas bien mûr, du curry en poudre, après nous on choisit si on voudrait du spicy ou pas. Une carotte, un oignon, de l'ail forcément, un bouquet garni, une tablette de bouillon volaille, mais évitez s'il vous plaît d'acheter le petit cube déjà prêt qu'on trouve près de la caisse de chez le boucher. On peut très bien s'organiser et faire son propre bouillon de volaille tout seul. On peut très bien aussi le congeler et sortir au fur et à mesure.
Et c'est facile à faire en plus.
Exactement. De l'huile d'olive, je l'ai rajouté, l'huile d'olive, c'est pas dans la recette mais j'adore ça. un peu de beurre, demi-sel et sel et poivre. Donc on fait dorer les morceaux de volaille ou de dinde côté pot dans un mélange d'huile d'olive et de beurre demi-sel. On rajoute la petite carotte râpée, l'ail et l'oignon. On rajoute notre bouquet garni, et, la moitié de la quantité du curry et la moitié du bouillon. Donc après on couvre d'eau froide et on laisse frémir pendant 40 minutes. À mi-cuisson, on met tous les morceaux de dinde, on les met dans le four. Et au fur et à mesure, on va arroser avec le restant du bouillon, histoire de ne pas laisser...
On va nourrir.
Nourrir, voilà, et alimenter ces morceaux de dinde. À 15 minutes de la bonne cuisson des morceaux de dinde, on fait notre riz. Généralement, il vaut mieux choisir du riz mélangé, où on a vraiment le riz sauvage avec le riz basmati, a beaucoup plus de goût et beaucoup de, enfin, la matière est très intéressante. Ma meilleure cuisson pour réussir un bon riz, c'est la cuisson pilaf. C'est une valeur sûre. Une dose de, si je me trompe pas, une dose de riz avec deux doses d'eau, c'est ça?
Oui.
Voilà, très bien.
Si on fait cuisson par absorption, c'est une dose pour une dose et demie. Et voilà. Si c'est par pilaf, une dose pour deux doses.
Mais quand il y a du riz sauvage, il faut prévoir un petit peu plus d'eau parce qu'il a besoin de plus de temps de cuisson, il me semble.
Oui. Puis bon, le riz sauvage seul, je trouve
c'est vrai,
ça
c'est pour ça que
bon,
voilà, exactement. Donc on mélange les graines de riz. Notre ananas coupé en gros dés, comme ça on a de la matière qu'on fait sauter dans le restant du beurre demi-sel. Et après, c'est facile, on dresse une belle assiette. Toujours l'astuce, c'est d'avoir des plats bien chauds, qu'on a préchauffés au four déjà. On dresse notre notre morceau de dinde avec du riz et on saupoudre avec, enfin pas saupoudre, mais on rajoute l'ananas dessus, bien caramélisé, bien doré avec une belle couleur. Et il suffit juste après de déguster avec la bonne humeur.
Bien, voilà. Réinterprétation de la dinde,
oui,
par
ça a l'air très appétissant cette
par Salma. Est-ce que les gens mangent de la viande rouge pour les fêtes de fin d'année, Karim?
Oui, beaucoup, hein. Surtout les roast beef.
Roast beef, c'est pas pour le réveillon trop, c'est plutôt le lendemain. Hein.
Moi, pour les commandes pour le 23 et le 24, j'ai énormément de roast beef. Donc, un roast beef qu'on va faire cuire au four. En préchauffant le four et en dorant d'abord à la poêle. On vend aussi pas mal de bœuf de Galice et en ce moment on est en pleine saison de Wagyu chez nous. On a le fameux bœuf japonais, le Miyabi. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais le Miyabi, par contre, on ne le fait pas. Je refuse de le faire en roast beef. Je veux qu'on fasse ça vraiment.
C'est du gâchis, ça.
C'est du gâchis, donc j'aimerais qu'on le fasse plutôt à la plancha ou à la poêle. Mais le faire au four, je suis contre. Ça se mange très fin, ça se mange saignant, donc le faire au four un gros pavé, je suis pas pour.
Le magret, vous avez du magret halal et du confit halal. Le magret, les gens en mangent peu finalement. Hein.
On va avoir du magret d'oie. Ça marche plutôt très bien. Non, le magret, c'est surtout moi j'ai une clientèle qui fête pas forcément Noël, comme nous d'ailleurs, mais on arrive à trouver ces produits-là uniquement à cette période-là. Donc on a énormément de clients qui viennent acheter les chapons, les magrets, etc., qui les congèlent pour les manger dans l'année.
Non, mais je crois aussi que le magret, c'est un produit qui s'est vraiment démocratisé. Parce que quand on regarde les classements des plats préférés des Français depuis une vingtaine d'années, le magret est toujours dans le top 5. Donc ça veut dire que c'est un plat qui est extrêmement consommé tout au long de l'année. Donc du coup, on en mange plus forcément pendant les fêtes, quoi.
Nous, on a beaucoup de demandes. En plus, on a une petite recette. On fait du magret en brochette, en fait. Donc j'enlève le gras du magret. Je le récupère après, bien sûr.
Ah oui, donc, parce que le gras du magret, c'est presque le meilleur. Hein.
Donc, je mets un morceau de magret dans ma brochette. Ensuite, j'y rajoute un morceau de gras. Ensuite, un morceau d'orange et un morceau d'ananas.
Et on en a parlé dans une émission précédente. Quand vous faites des magrets, vous démarrez toujours. Vous incisez le magret
en
quadrillage. Et vous démarrez toujours la cuisson côté pot, à froid, toujours.
Manu, comment est-ce qu'on célèbre Noël en Russie?
Ah bah alors, en Russie, on fait pas le Noël le même soir que chez nous, mais une quinzaine de jours plus tard, durant ce qu'on appelle le Nouvel An russe du calendrier grégorien.
Ouais.
Parce que suite à la révolution communiste qui était profondément anti-catholique, toutes les formes de festivités avaient été interdites le 24 décembre, y compris le traditionnel sapin avec boules et guirlandes, qui pouvait même vous conduire tout droit en prison sans passer par la case départ. Si on en trouvait un dans votre salon, bien entendu, mais les dénonciations, en plus, ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était très à la mode. Alors, pour ce repas de Noël après l'heure, le menu en général, c'est végétarien. Le plat le plus répandu étant la koutia. C'est une espèce de porridge. Enfin, moi, j'en ai déjà vu, ça, je dirais plutôt une bouillie. Un porridge à base de blé bouilli, auquel on ajoute de la cannelle, du miel, des graines de pavot, des fruits et des raisins secs. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion d'en voir, mais je n'y ai pas goûté, parce que c'était sans doute l'un des plats les moins appétissants que j'ai vu de toute ma carrière de journaliste gastronomique.
Bien, on continuera à voyager à travers les traditions culinaires. Salma ?
Non, mais j'allais dire que ça me rappelle un petit peu la compote de mes enfants, ça.
C'est pas parce que c'est pas beau.
Je pense que ça devait être bien meilleur, la compote des enfants.
Non, c'est pas parce que c'est pas beau que c'est pas bon, attention.
Oui, mais on mange déjà avec les yeux, déjà.
On continue cette émission spéciale anti-réveillon. Manu, vous nous proposerez une bûche tout à l'heure.
Ah ouais, un peu spécial, oui.
Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Chef voilà. Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Beurre FM.
Sur Beurre FM. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
L'anti-réveillon à quelques heures du réveillon. Salma est avec nous, Manuel Mariani est là et Karim des Jumeaux. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous pouvez remporter votre panier des Jumeaux pour Noël avec ce foie gras. C'est une exclusivité, c'est le meilleur foie gras du monde et en plus, il est halal pour la première fois. Karim, qu'est-ce qu'on a dans ce panier ?
Donc, on a un foie gras mi-cuit de 125 grammes. On a un saucisson sec qu'on fait nous-mêmes, bien sûr, donc de bœuf bio. On a un magret séché et on a un jus pétillant.
Voilà, et pour remporter votre panier, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Vous laissez vos coordonnées. Tirage au sort la semaine prochaine dans la matinale.
Philippe, juste un coup de gueule. Je voudrais qu'on arrête de dire que c'est le meilleur foie gras du monde. Parce que comme je l'ai déjà dit dans l'émission sur le foie gras, le meilleur foie gras du monde, c'est le mien. Donc, si on pouvait arrêter un petit peu.
D'ailleurs, oui, mais le vôtre, il n'est pas halal.
Bah, il peut être halal. Si le foie est halal, je vous fais du foie gras halal.
Bon, non, on va
mais
goûter, alors.
Non, mais il peut. Vous avez bien dit, il peut. Pour l'instant, voilà.
Là, en l'occurrence, c'est lui qui a été élu meilleur foie gras du monde. Et en plus, c'est le seul éthique. Donc, il n'y a pas de gavage. Il n'y a pas de souffrance de l'animal. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, quoi. Trois ans de travail.
En disant ça, j'ai remis un euro dans le jumeau.
Manu, ça se fait pas ce que vous faites. Alors, Manu, vous avez une idée de la bûche, enfin, ça s'appelle la bûche de Noël. Et vous, comme vous ne faites rien comme tout le monde, eh bien, la bûche de Noël, elle est salée chez vous.
Bah oui, je la sers en plat de résistance, la bûche de Noël. En fait, on va faire une poitrine de veau désossée, farcie et roulée. Et on va faire en sorte qu'elle ait l'aspect à l'arrivée d'une bûche de Noël. On va même mettre les petites décorations dessus, le petit Père Noël, les petits sapins, etc. Comme sur une vraie bûche de Noël. Et
donc
puis on va la glacer.
La viande.
Je vais vous apprendre à faire un fond de demi-glace, qui est un fond de veau, mais très réduit, qui est bien nappant, bien brillant. Et on va glacer cette espèce de bûche avec ce fond demi-glace. Et ça va avoir un aspect de bûche de Noël. Voilà.
Mais bon, ça vous vient d'où, cette idée, Manu?
J'ai créé cette recette suite à un constat très simple. On dit que Noël, c'est surtout la fête des enfants. Mais quand vous regardez les menus concerts ce soir-là, c'est composé exclusivement d'aliments que les adultes adorent, pas les enfants. Comme le foie gras, le saumon fumé, les huîtres ou les crustacés. Donc, j'ai sorti mes plus belles casseroles pour que
les enfants aiment les crevettes, hein.
Les crevettes, oui,
ouais.
C'est vrai.
Les crevettes avec de la sauce, bon, voilà.
Ouais, quand même, voilà. Mais bon, ils vont pas se nourrir de crevettes toute la soirée, hein. Puis vous leur faites pas manger des huîtres. Donc, j'ai sorti mes plus belles casseroles pour créer un plat de fête, dont les enfants adoreront le goût et la présentation, mais qui fera également le bonheur des plus grands. Il s'agit d'une poitrine de veau farcie, donc, comme je vous l'ai dit, roulée façon bûche de Noël. J'ajouterais que le soir de Noël, les enfants touchent si peu au plat salé, que quand la bûche ou le dessert arrive, ils en mangent 4 assiettes et ils se réveillent souvent le lendemain avec une belle indigestion. C'est pas super sympa pour profiter des cadeaux qu'on a reçus la veille.
Ouais, et si on ajoute tous les bonbons et les chocolats qui traînent un peu partout à la maison à l'approche des fêtes.
Ah, tout à fait, Philippe. Alors pour cette recette, on va procéder en deux temps. On va d'abord réaliser ce qui est le plus long, une sauce demi-glace, qui est un fond de veau très réduit pour qu'il soit suffisamment épais, sirupeux pour faire cette sorte de glaçage autour de la bûche, mais qui est aussi très riche en goût pour une sauce vraiment délicieuse. Ensuite, on fera la roulade de veau et pour finir, on dressera et on décorera le tout. Alors d'abord, les ingrédients pour environ 6 personnes. Pour la sauce demi-glace, il vous faut 2,5 kg d'os de veau en morceaux pas trop gros. Vous dites à votre boucher que c'est pour faire un fond de veau, il saura quoi vous donner. Vous prenez un demi-pied de veau, 3 carottes grossièrement émincées, une branche de céleri grossièrement émincée, 2 oignons grossièrement émincés, 2 gousses d'ail simplement écrasées avec le plat du couteau, 2 feuilles de laurier, 4 branches de romarin, 2 branches de thym, 6 cuillères à soupe de concentré de tomate et du sel et du poivre. Alors, pour la poitrine de veau roulée, il vous faudra 1 kg d'eau de poitrine de veau désossée et pas trop épaisse. Dites à votre boucher que c'est pour cuisiner une roulade de veau. Là aussi, il saura quoi vous donner. Vous prenez 200 g de bloc de foie gras. Alors, le bloc de foie gras, c'est moins bon que la terrine de foie gras. Mais comme là, on veut faire une farce, on veut que ce soit onctueux, le bloc de foie gras, c'est parfait. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez remplacer par 150 g de foie de volaille que vous cuisez préalablement à la poêle et que vous réduisez en purée grossièrement après. Il vous faut 200 g de trompette de la mort ou de champignons de Paris, 2 tranches de pain de mie sans la croûte, un œuf battu, une pincée de noix de muscade, 2 cuillères à soupe de persil plat haché, du sel et du poivre, de la ficelle à rôtir et vous achetez dans votre supermarché ou chez votre boulanger des petites décorations traditionnelles pour la bûche de Noël. Alors, on commence par la sauce. Oui.
Alors, on y va pour la sauce. Allez-y.
On y va pour la sauce. Donc, vous mettez les os de veau dans un grand plat métallique et vous les faites dorer à 220 degrés pendant 15 à 20 minutes en les retournant de temps en temps dans le four. Ils doivent colorer, mais surtout pas brûler. Donc, n'hésitez pas à les retourner de temps en temps.
D'accord.
Ensuite, vous sortez le plat du four, vous rajoutez les carottes, le céleri, l'oignon, l'ail et vous remettez 15 à 20 minutes après avoir mélangé l'ensemble. Vous remuez en cours de cuisson si la coloration est trop importante. Vous ressortez le plat du four et pendant qu'il est encore chaud, vous videz un ou deux verres d'eau à l'intérieur du plat pour bien déglacer et récupérer tous les sucs de cuisson qui ont caramélisé au fond du plat.
Ouais.
Et vous transférez le tout dans un très grand faitout ou la partie basse d'un grand couscoussier, ça fait l'affaire aussi.
Ouais.
Vous ajoutez le demi-pied de veau, le laurier, le romarin, le thym, le concentré de tomate, 3 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de poivre et vous laissez réduire pendant 3-4 heures à tout petit feu, à tout petit bouillon en remuant régulièrement pour empêcher le mélange d'attacher. Il faut que ça réduise tout doucement. Il ne faut pas que ça attache et c'est là que vous allez avoir beaucoup de saveur. Au bout des 3 à 4 heures de cuisson, vous passez le tout au chinois dans une casserole vide.
Oui.
Et vous devez obtenir une sauce de couleur brun foncé qui a la même consistance qu'un caramel un petit peu. Si la sauce n'a pas cette consistance de caramel, si elle est un peu plus liquide, genre sirop, voire même liquide, vous la remettez à réduire à feu doux moyen en remuant souvent pour pas que ça attache. Et une fois que ça réduit, seulement une fois que ça réduit, là, vous rectifiez l'assaisonnement.
Bien, on va passer au rôti maintenant, Manu.
Oui, alors pour le rôti, vous préchauffez le four à 180 degrés. Dans un grand saladier, vous mettez le foie gras, les champignons hachés, le pain de mie émietté en tout petits morceaux, l'œuf battu, la noix de muscade, le persil haché, l'échalote hachée, 3 cuillères à café de sel, un peu de poivre du moulin. Et vous mélangez énergiquement à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien, bien homogène. Il faut vraiment que ce soit homogène, il ne faut pas qu'il y ait de gros morceaux, etc. Ensuite, vous posez votre poitrine de veau sur le plan de travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la recouvrir de film alimentaire et puis vous la battez avec le cul d'une grosse casserole, vous savez, pour l'aplatir et puis pour l'attendrir un petit peu aussi. Puis ça va casser les fibres de la graisse, ça va l'aider à fondre à la cuisson et ce sera plus léger. Vous pouvez demander à votre boucher éventuellement de le faire. Eux, ils ont des grosses battes, n'est-ce pas Karim ? Il y a des battes pour aplatir.
Il y a des batteurs à viande.
Qui sont faites pour ça. Alors ensuite, une fois que vous avez ce grand rectangle de poitrine de veau, vous allez le tartiner de façon uniforme avec votre farce. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez la rouler dans la longueur en serrant bien, tout en faisant attention que la farce ne déborde pas sur les côtés. Puis vous la ficelez comme un rôti pour lui donner un aspect de gros rôti, quoi, de bûche, un aspect de bûche. Après, vous déposez la roulade de veau dans un plat qui va au four. Vous salez un petit peu et vous poivrez. Vous étalez dessus, vous tartinez un peu dessus les 75 grammes de beurre à température. Vous ajoutez 4 cuillères à soupe d'eau dans le fond du plat. Vous enfournez et vous laissez cuire pendant 1h30 en arrosant de temps en temps la roulade avec le jus de cuisson. À la fin de la cuisson, vous sortez le plat du four, vous enlevez le rôti du plat de cuisson, vous l'enroulez complètement de papier aluminium et vous le laissez reposer. Pendant que vous vous occupez de la fin du plat. Vous dégraissez le jus de cuisson du rôti au maximum, c'est-à-dire que vous enlevez la graisse qui est dans le fond du plat, ça on s'en débarrasse, et le jus qui reste, dégraissé, vous l'ajoutez à la sauce demi-glace sur un feu très doux, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement de la sauce si nécessaire. Ensuite, vous allez dresser le rôti sur un plat de service, vous enlevez la ficelle, et vous allez arroser tout doucement de sauce avec une cuillère à soupe. Comme on a mis le pied de veau dedans, il y a de la gélatine. Donc ça va être très sirupeux, très épais. Et vous allez vous apercevoir que la sauce, en descendant,
elle
va enrober complètement la roulade de veau. Et que cette roulade de veau, elle va petit à petit avoir l'aspect d'une bûche glacée avec du chocolat, vous voyez. Et donc vous, comme si vous faisiez le glaçage d'un gâteau, si nécessaire, vous pouvez même faire des retouches avec un petit pinceau à pâtisserie avec la sauce. Ça marchera très bien. et puis vous piquez dessus les décorations pour bûches de Noël, un sapin par-ci, un traîneau par-là, un Père Noël, un petit bûcheron. Et puis, vous n'avez plus qu'à servir avec le reste de sauce dans un bol ou dans une saucière. Alors, vous pouvez l'accompagner, c'est très bon, avec un écrasé de pommes de terre dans lequel vous rajouterez du beurre, de la crème liquide, de la ciboulette ciselée, du sel et de la muscade râpée. Jamais de poivre dans les pommes de terre. Ça, je le dis souvent.
Pourquoi ?
En fait, l'amidon qu'il y a dans la pomme de terre fait une réaction chimique avec le poivre qui donne un goût un peu métallique, un peu désagréable à la pomme de terre, alors que la muscade, non. Voilà.
Karim, qu'est-ce que vous mangez, vous, pour le réveillon ? Quelle est votre viande préférée ?
Ben donc,
et
nous,
là, il dit, je mange du poisson.
Non. Déjà, nous, on fait pas ni réveillon ni Noël, mais je profite d'avoir des produits particuliers pour en manger en cette période-là. Moi, ça va être la poularde que je vais manger cette année. Voilà, cette année, on a fait de la poularde, donc c'est une poulette, en fait. C'est comme un espèce de chapon, mais il sera pas castré, du coup. Mais c'est de la poulette, donc elle est nourrie avec du lait.
De la poulette.
De la poularde.
Voilà. Et c'est, qu'est-ce que ça a comme taille? Parce que c'est plus petit. C'est beaucoup plus petit que le chapon, quand même.
C'est beaucoup plus petit. Ça fait 2,2 kg, 2,3 kg.
Ouais, c'est un gros poulet, une poularde.
C'est un gros poulet, ouais. Ouais. Elle a à peu près 5-6 mois.
Mais beaucoup plus petit que la poule, par contre.
Donc c'est une poularde par personne, c'est ça?
Non. Et on va manger aussi le wagyu.
Le wagyu.
Oh, le wagyu, mais toujours, moi, c'est ma viande préférée, le wagyu. Surtout le Miyabi, celui-là qu'on fait, de Sébastien Chérel. Il est vraiment exceptionnel puisqu'il est nourri avec de la graine de lin. Donc, il est différent du bœuf de Kobe, mais il a la même sensation en bouche.
Bien, je vous rappelle que vous jouez et pour remporter votre panier des fêtes des jumeaux. Donc, c'est très simple pour vous inscrire. 3xw.beurrefm.net, vous avez la page du concours, vous mettez vos coordonnées et c'est peut-être vous qui êtes tiré au sort la semaine prochaine dans la matinale avec Delphine, Fabrice et Kim. Merci Salma.
Merci à vous et bonne fête. Et n'oubliez pas de récupérer, de faire du recyclage avec les restants de Noël, enfin de la soirée de Noël et du dîner de Noël.
Pour faire les menus des jours suivants.
Exactement.
Mmh. Ouais, ne gaspillez pas, ça c'est important. Et vous recyclez tout, même les paquets des cadeaux si vous faites des cadeaux.
Exactement, ça peut servir.
Bien, Salma, à la semaine prochaine. Manu, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
on va
Philippe.
Essayer votre bûche. Au revoir Karim Desjumeaux.
Au revoir Philippe.
Rendez-vous à la semaine prochaine.
C'était Les Exploits du Chef avec Philippe Robichon et le Chef Voilà. Le Chef Voilà. Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Beurre FM.